VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, il est 18h30 temps universel, le monde aujourd'hui, édition du lundi 13 novembre 2017. Morgane Guerriec en direct de Washington DC. Au sommaire ce soir, ouverture du forum de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique. Des dirigeants africains appellent à une adaptation des interventions internationales aux réalités locales. Élection présidentielle dans la République autoproclamée du Somaliland. Les bureaux de vote ont fermé et le dépouillement a commencé. Tremblement de terre en Iran et en Irak, on compte au moins 115 morts. Et en magazine, nous partirons au Burundi, où les femmes sont interdites de battre le tambour. Retrouvez Nicolas Pineau à la fin de ce journal pour les sports et Jacques Aristide pour la Minute Éco. Mais d'abord, le journal. En Centrafrique, un calme précaire règne à Bangui, la capitale, suite aux violences qui ont fait au moins 7 morts et plus de 20 blessés. Il y a eu déploiement de la MINUSCA et des forces centrafricaines près du quartier musulman du PK5, épicentre des violences ces dernières années. Tous les commerces sont fermés, les écoles aussi. Il n'y a pas de circulation, selon un responsable de la communauté islamique du PK5. 4 bombes artisanales ont explosé cette nuit à Bamenda, dans le nord-ouest du Cameroun. Ces explosions n'ont pas fait de victimes. Bamenda est le théâtre d'une crise politique aiguë qui secoue la partie anglophone du pays depuis plusieurs mois. La semaine dernière, 3 gendarmes ont été tués et un couvre-feu est actuellement en vigueur. En République démocratique du Congo, les Chégué de Kinshasa, enfants de la rue, soutiennent le calendrier électoral proposé par la CENI avec des élections le 23 décembre 2018. C'est du moins ce qu'affirme une association prétendant représenter ces enfants. C'est vrai qu'attendre 9 à 10 mois ou même une année avant la date initiale des élections, c'est long, mais cette date finira par arriver. C'est mieux de patienter que de tout casser, a précisé aujourd'hui le signataire de la déclaration, Théodore Talakwa, président de l'Union des Tchégué et faceur de Kinshasa. La société civile et l'opposition contestent pourtant ce nouveau calendrier et appellent à une journée de mobilisation mercredi prochain pour obtenir le départ du président Joseph Kabila et des élections plus tôt en 2018. RDC toujours, les autorités confirment que l'accident d'un train de marchandises dans le Katanga a tué 33 passagers clandestins et blessé 26 autres. Les recherches se poursuivent pour retrouver d'éventuels survivants coincés dans les wagons. À l'ouverture ce lundi du forum de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique, les dirigeants africains ont appelé les États africains à assurer leur propre sécurité. Le point avec Dili Diko.
Le président sénégalais Macky Sall a déclaré lors de l'ouverture de cette 4e édition du forum que les interventions internationales doivent être adaptées aux réalités locales et qu'il faut se garder des solutions toutes faites conçues sans les Africains. En présence de ses homologues rwandais Paul Kagame et malien Ibrahim Boubacar Keïta, il a souligné en faisant allusion à l'intervention occidentale en Libye en 2011 que les conséquences de ces interventions sont souvent pires que le mal qu'elles étaient censées soigner. La ministre française des armées, Florence Parly, a réitéré le soutien de la France à la force conjointe du G5 Sahel. Paul Kagame, futur président de l'Union africaine, a quant à lui exhorté ses pairs à se prendre en main. Si nous laissons les autres définir nos défis et prendre la responsabilité de régler nos problèmes, nous ne pouvons nous en prendre qu'à nous-mêmes, a déclaré le président rwandais.
Quelques 700 000 électeurs de la République autoproclamée du Somaliland ont voté dans le calme aujourd'hui pour élire leur président. Les bureaux de vote ont fermé, le dépouillement des bulletins a commencé, les réseaux sociaux ont été bloqués par la commission électorale pour éviter toute ingérence et spéculation sur les résultats. Les détails avec Claire Morin-Gibourg.
3 hommes sont en lice pour présider aux destinées de cette petite république autoproclamée de près de 4 millions d'habitants. Mouzé Bihi, du parti au pouvoir, et les candidats d'opposition, Abdirahman Hiro et Faisal Ali Warabé, candidat malheureux à la précédente présidentielle de 2010. Le président sortant, Ahmed Mohamud Silonyo, a décidé de ne pas se représenter. Situé dans le nord de la Somalie, en bordure du golfe d'Aden, ce territoire se distingue par sa stabilité. Le Somaliland espère, par cette nouvelle élection, renforcer sa stature internationale. Aucun pays n'a officiellement reconnu son indépendance, ce qui prive le territoire des prêts de la Banque mondiale ou du FMI. Mais le Somaliland parvient tout de même à attirer des investissements étrangers, notamment des pays du Golfe.
Au Zimbabwe, le général Constantino Chiwenga, chef de l'armée, dénonce l'éviction du vice-président Emmerson Mnangagwa et réclame la fin de ce qu'il a qualifié de purge au sein du parti présidentiel, la ZANU-PF, prévenant que l'armée pourrait intervenir. Monsieur Mnangagwa, longtemps pressenti comme un possible dauphin du président Robert Mugabe, a été démis de ses fonctions de vice-président la semaine dernière après un bras de fer avec la première dame, Grace Mugabe, qui ne cache pas sa volonté de succéder à son époux âgé de 93 ans. Afrique du Sud, l'ancien vice-ministre de l'éducation condamné à payer une amende de 6 000 euros pour avoir agressé plusieurs femmes dans une boîte de nuit. La décision a provoqué la colère des militants qui défendent les droits des femmes. Mdoudouzi Manana, 33 ans, avait démissionné du gouvernement après avoir frappé trois femmes qui affirmaient qu'il était homosexuel. Les représentants du groupe de contact sur la route migratoire en Méditerranée centrale ont décidé d'améliorer les conditions des migrants dans les centres de détention en Libye. Ils entendent améliorer la prévention du trafic des migrants, la lutte contre la traite des êtres humains et le soutien au retour volontaire vers les pays d'origine.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dans le reste du monde, les secouristes iraniens s'activent pour trouver d'éventuels survivants après le tremblement de terre qui a frappé hier l'Iran et plusieurs régions irakiennes. Cette catastrophe a fait au moins 415 morts et des milliers de blessés. On fait le point avec Solange Niamoulissa.
Les autorités iraniennes font face à un premier défi qui est d'abriter et de nourrir des dizaines de milliers de personnes qui ont passé la nuit à la belle étoile. Le bilan provisoire de ces puissants séismes est d'au moins 415 morts, près de 6700 blessés et pourrait être révisé à la hausse. L'essentiel des victimes ont été recensées dans la province de Kermanshah, limitrophe de l'Irak. Un responsable des affaires culturelles de cette province a indiqué que 5 monuments historiques ont subi des dégâts mineurs et le site de Behistun, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, n'a connu aucun dégât. En Irak, la secousse a été fortement ressentie à Bagdad et dans de nombreuses régions et le bilan pour le moment est de 8 morts et 336 blessés. Pour rappel, en décembre 2003, un séisme avait fait 31 000 morts et a anéanti la ville historique de Bam dans le sud de l'Iran. Mais le tremblement de terre de juin 1990 avec quelque 40 000 morts est resté gravé dans la mémoire collective.
L'Iran respecte bien ses engagements dans le cadre de l'accord nucléaire conclu en 2015. L'Agence internationale de l'énergie atomique atteste que Téhéran n'a pas enrichi d'uranium à des degrés prohibés ni constitué de stocks illégaux d'uranium faiblement enrichi ou d'eau lourde. Telles sont les conclusions du rapport trimestriel de l'agence onusienne, alors que le président américain Donald Trump exige de certifier que tel est le cas. En Syrie, au moins 21 civils ont été tués ce lundi dans des raids aériens contre la localité d'Atareb, dans le nord du pays. C'est ce qu'a annoncé l'Observatoire syrien des droits de l'homme, sans préciser si ces frappes avaient été menées par des avions du régime de Bachar al-Assad ou de son allié russe. Au plan diplomatique, le Kremlin annonce que le président turc Recep Tayyip Erdogan est arrivé en Russie où il doit s'entretenir avec Vladimir Poutine des moyens de faire avancer le règlement du conflit syrien. La Russie est l'un des principaux alliés du régime de Damas, tandis que la Turquie est un soutien majeur des rebelles. Les efforts des deux pays ont permis toutefois d'aboutir à la mise en place de zones de désescalade en Syrie, permettant une diminution des violences. Après un marathon de 11 jours dans 5 pays d'Asie, le président américain achève son périple aux Philippines. Au menu, une rencontre avec le controversé président philippin Rodrigo Duterte, des poignées de main gênantes et des manifestations anti-Trump en marge du sommet de l'ASEAN à Manille. Raissa Girondin.
C'est dans une atmosphère complice et chaleureuse que s'est déroulé le tête-à-tête Trump Duterte, le président philippin connu pour sa sanglante guerre contre la drogue, qui a fait près de 4000 personnes abattues par la police, avait l'an passé insulté l'ex-président des États-Unis Barack Obama. En réitérant avoir de très bonnes relations avec Duterte, le président Trump a confirmé l'absence de tout intérêt à défendre les droits de l'homme publiquement, même si Sarah Sanders, porte-parole de la Maison-Blanche, a assuré que le sujet a été brièvement évoqué. Pendant la traditionnelle poignée de main de l'ASEAN, un léger cafouillage a eu lieu. En marge de ce sommet à Manille, quelques 2000 manifestants brandissant des pancartes où l'on pouvait lire « Trump rentre chez toi » ont été bloqués par la police.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Et on enchaîne sur l'actualité économique en Afrique. Jacques Aristide, la Minute Éco.
Le Fonds monétaire international va fournir à la Mauritanie un crédit de 162,8 millions de dollars sur 3 ans pour appuyer un programme de réformes économiques. En contrepartie, le FMI demande à Nouakchott d'assainir ses finances publiques, de réduire la pauvreté et d'augmenter l'investissement dans les infrastructures. Les autorités sont également appelées à renforcer la supervision bancaire et améliorer le climat des affaires. L'accord de crédit est subordonné à l'approbation du conseil d'administration du FMI prévu en décembre. Le Ghana espère gagner des milliards de dollars de l'exploitation pétrolière pour doper son économie grâce à une décision de justice qui a tranché en sa faveur dans un différend maritime avec son voisin ivoirien. La production est actuellement d'environ 50 000 barils par jour, mais l'opérateur Tull Oil vise 80 000 barils par jour grâce à la mise en service de nouveaux puits d'ici 2 ans. Les champs opérés par Tull Oil font partie du bassin de Tano qui abrite des réserves estimées entre 3 et 4 milliards de barils. Ces champs pétroliers pourraient rapporter jusqu'à 165 milliards de dollars. En Sierra Leone, une nouvelle importante découverte de diamants de 476 carats a été faite dans la province de Kono, où un diamant de taille exceptionnelle avait été trouvé il y a 8 mois. La valeur marchande de ce nouveau diamant n'est pas encore établie, mais selon l'Agence nationale des mines, la découverte donne une indication sur le potentiel en ressources minérales de la zone de Kono.
L'info sur les stades, les sports avec Nicolas Pinault. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Morgane, bonsoir à tous.
L'Italie au bord de l'élimination pour la Coupe du Monde 2018.
Et oui, le coup d'envoi à 19h45 temps universel au stade Giuseppe Meazza, c'est à Milan, a battu à Stockholm 1-0 la nationale et en plein doute depuis des mois doit retrouver son football pour éviter un échec retentissant. Tenez-vous bien un chiffre, depuis 1958, l'Italie a été de toutes les Coupes du Monde. Ce serait quand même une grosse catastrophe si les Italiens n'étaient pas en Russie l'été prochain.
En Afrique, les derniers matchs sans enjeu demain.
Le Sénégal, après sa qualification acquise vendredi 2-0 à Polo Kouané, retrouve l'Afrique du Sud à Dakar. Sadio Mané, l'homme providentiel tout juste revenu de blessure, est déjà rentré en Angleterre pour rejoindre son club de Liverpool. Il s'est légèrement ressenti de son ancienne blessure, indique la Fédération sénégalaise de football dans un communiqué. Il s'agit plus d'une mesure de précaution qu'un réel motif d'inquiétude pour l'entraîneur des Reds, Jürgen Klopp. Et côté burkinabé à Ouagadougou, les étalons voudront terminer sur une belle note face au coriace requin bleu du Cap-Vert. On rappelle que l'été prochain, en Russie, le Nigeria, l'Égypte, le Sénégal, la Tunisie et le Maroc défendront les chances africaines.
Le Rwanda qualifié pour la CHAN 2018.
Les Amaboubi, qui n'avaient besoin que d'un nul après leur victoire à l'aller 3-2, ont fait le strict nécessaire pour décrocher le dernier billet qualificatif pour le CHAN, un score de 0-0. On rappelle que le Rwanda se qualifie après le désistement de l'Égypte.
Et enfin NBA, championnat de basket nord-américain.
Pour la première fois depuis près de 7 ans, Boston enchaîne une 12e victoire de suite en venant à bout de Toronto hier 95-94. Dans la conférence Ouest, Houston a consolidé sa première place avec une démonstration sur le parquet d'Indiana 118-95. La 11e victoire de la saison, la 6e de suite. À Oklahoma, nette victoire du Thunder face à Dallas 112-99.
Merci Nicolas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De retour avec vous, Morgane Guerriec, deuxième partie d'émission, les dossiers du jour. Au Cameroun, des mandats d'arrêt internationaux ont été émis contre une dizaine de séparatistes anglophones. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Issa Tchiroma Bakary, a confirmé ces mandats d'arrêt. L'opinion est partagée sur cette option de Yaoundé. Sur place, notre correspondant Emmanuel Juntap.
À Yaoundé, capitale politique, Salomon, un jeune citoyen se réclamant proche du parti au pouvoir, approuve l'option de traduire les séparatistes anglophones en justice.
Notre pays a quand même été agressé. Nous sommes un État. Vous pouvez dialoguer, mais également en voulant montrer à celui qui est en face de vous que vous restez légaliste. C'est ces deux aspects-là qu'il faut regarder dans la démarche du gouvernement camerounais.
L'entorse sur le dialogue est risquée par le gouvernement camerounais avec le levier des mandats d'arrêt internationaux. L'avis est de Léonie de Foum, membre du secrétariat national à la communication de l'UNDP, l'Union nationale pour la démocratie et le progrès, une formation de la majorité présidentielle.
L'UNDP, depuis le congrès de février, appelle au dialogue. Nous pouvons certes aller d'escalade en escalade parce que certains ont intérêt à ce qu'on y aille. Pour les sécessionnistes, il s'agit du gouvernement qui veut créer des conditions d'affrontement. Et pour le gouvernement, c'est autre que les sécessionnistes qui ont lancé ces différents.
La semaine dernière, trois gendarmes ont été assassinés à Diakiri, Bafout et Bayélé, dans le nord-ouest. Un quatrième a été égorgé à Akwem, dans le sud-ouest, en zone anglophone. Ces actes ont été revendiqués par Dr Cho Ayaba, de la branche armée de la République dite Ambazonia, favorable à la sécession du Cameroun anglophone. Dès lors, Franklin Sole Baye, journaliste freelance anglophone, joint au téléphone, déplore que les mandats d'arrêt internationaux de l'État du Cameroun visent tout le monde.
Le processus pour l'établissement de ce mandat a été engagé bien avant la mort de ces gendarmes. Donc, je comprends que l'État camerounais a déjà pensé à ce mandat avant la mort des gendarmes.
Le débat fait aussi rage sur le sort qui sera réservé aux 10 mandats d'arrêt internationaux. L'ancien avocat général anglophone, Paul Aya Abiné, emprisonné puis libéré pendant la crise dite anglophone et par ailleurs homme politique, a prédit l'échec de cette initiative, notamment aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Afrique du Sud, pays sollicités par le Cameroun pour extrader les séparatistes. Maître Emmanuel Sim, avocat au barreau du Cameroun, se prononce à ce sujet.
Seuls les États avec lesquels l'État émetteur du mandat a des conventions de coopération judiciaire sont obligés de renvoyer la personne si elle est arrêtée. Même sans accord de coopération, les États qui hébergent leur sol des personnes poursuivies exécutent les mandats d'arrêt. Avant que la personne ne soit extradée, une procédure est mise en place pour s'assurer que la personne ne sera pas renvoyée dans un État qui, par exemple, applique la peine de mort.
Au Cameroun, justement, les auteurs d'actes terroristes encourent jusqu'à la peine de mort selon la loi antiterrorisme. Yaoundé, Emmanuel Juntap, VOA Afrique.
Washington, VOA Afrique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Au Niger, les membres de la commission électorale indépendante ont prêté serment ce matin. Seulement, les représentants de l'opposition dans cette institution n'étaient pas présents. Les partis politiques de l'opposition estiment que le processus n'a pas été fait de façon consensuelle et que par conséquent, ils récusent les membres de la CENI. Le reportage à Niamey de notre correspondant Abdulrazak Idrissa.
Le premier défi de cette institution désormais permanente est de travailler à faire siéger en son sein l'opposition politique. Et son président, Maître Issa Kassouna, en est pleinement conscient.
Nous allons travailler ensemble pour que chacun regagne sa place dans l'intérêt de la République et de la démocratie. Dans un contexte socio-politique difficile comme celui-là, il faut faut s'attendre à ce qu'il y ait des difficultés. Mais nous savons que nous allons devoir les gérer et nous sommes prêts à les gérer.
Au niveau de l'exécutif, cette question de l'absence de l'opposition ne semble pas trop inquiéter pour la suite du processus. Bazoum Mohamed, ministre de l'Intérieur en charge des questions électorales.
Le jour où l'opposition se décidera de venir à la CENI, une cérémonie de prestation sera organisée pour les membres de la CENI qui seront là, au titre de l'opposition. Notre code électoral a prévu que nous ayons 3 membres au titre de la majorité, 3 membres au titre de l'opposition. Dans d'autres pays, ce n'est pas le cas. C'est très souvent déséquilibré avec la participation de ses représentants.
À la veille de la prestation de serment des membres de la Commission électorale nationale indépendante, les partis politiques de l'opposition et ceux dits non affiliés ont réitéré leur position de recusation de la CENI dans sa forme actuelle parce que mise en place de façon non consensuelle. Falke Bacharou, un des responsables de l'opposition politique nigérienne.
La composition de la CENI ne prend pas en compte les partis politiques non affiliés d'une part et de l'autre. Seuls 3 sur les 13 membres qu'elle compte ne révèlent pas du PNDS Tarir. Le Front pour la restauration de la démocratie et la défense de la République FRDDR et le Front des partis politiques non affiliés pour l'alternance démocratique au Niger FPNAD rejette la loi portant code électoral du Niger, rejette la CENI permanente dans sa forme actuelle et refuse les membres qui la composent. Lance un appel au peuple nigérien pour une forte mobilisation en vue de sauver la République, la démocratie et redonner espoir à notre pays.
Cette commission électorale nationale indépendante permanente a pour mission d'élaborer un fichier électoral biométrique sur la base duquel les futures élections seront organisées, notamment la présidentielle prévue en 2021. Abdelrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Tous les lundis soirs, VOA Afrique met le sport à l'honneur. Les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs. Rendez-vous en direct dans Sporama, 19h TU. Pour participer, c'est très simple. Laissez vos commentaires ou numéro de téléphone sur notre page Facebook. Alors, à très vite sur le terrain de VOA Afrique.
Nous partons au Burundi. Un décret présidentiel interdit aux femmes de battre le tambour. Elles peuvent toutefois exécuter les danses folkloriques féminines pour accompagner le tambour. Maintenant, toute formation voulant jouer du tambour doit avoir l'autorisation préalable du ministère de la Culture. Les contrevenants peuvent payer une amende allant jusqu'à 1 million de francs burundais. Reportage à Bujumbura de Christophe Kourounziza.
Normalement, dans toutes les cérémonies de mariage, de naissance, de dot, de remise de diplôme ou toute festivité à caractère social, le tambour burundais, reconnu internationalement comme un patrimoine international, était toujours présent pour agrémenter les cérémonies. Mais depuis le mois d'octobre dernier, un décret présidentiel définit les rôles, l'esprit et les responsabilités des différents acteurs impliqués dans sa mise en œuvre, surtout les femmes qui ne doivent plus aujourd'hui jouer le tambour. Et à ceux qui expliquent que ce décret est une exclusion des filles et femmes, voici les réponses de cette femme.
Tout le monde est égal devant la loi, les hommes et les femmes, pour pas briser les tabous. Sinon, demain, on va dire qu'un homme va mettre au monde. Il y a des choses qui sont contre nature. Il y a un caractère sacré qui est là.
Toute femme qui a joué au tambour à l'école secondaire estime que ce décret présidentiel porte atteinte à l'égalité entre l'homme et la femme.
Ce que je peux dire, c'est qu'il y a des fois où on peut aimer le tambour. Par exemple, moi, je suis une femme et j'aime bien le tambour. Ce serait vraiment très difficile pour moi de comprendre que je ne dois pas le faire parce que je suis une fille, parce que je suis une femme. Il y a une discrimination basée sur le genre. Nous sommes dans un monde où il faut respecter les droits de tout un chacun, des hommes et des femmes. Et surtout dans un monde où il faut vraiment améliorer les conditions de vie des femmes. Pourquoi ne pas penser que ça aussi c'est une discrimination?
Cette autre femme affirme que le décret présidentiel qui interdit au sexe féminin de battre le tambour est contraire à la Constitution.
De mon point de vue, je me dis que c'est une discrimination. Aujourd'hui, c'est la loi qui vient sur le tambour, mais je me dis que demain, il y a d'autres lois.
qui vont venir, qui vont aussi continuer à discriminer la femme burundaise. Alors que la constitution burundaise stipule que nous sommes tous égaux devant la loi.
Ce jeune célibataire qui a joué à l'âge de 9 ans et qui l'a pratiqué à l'université du Burundi affirme que la mesure en soi est bonne si les autorités burundaises ne veulent pas faire du profit avec ce décret, sinon ça serait de l'exclusion.
Si on a décréter la loi pour en profiter, là ça serait pur. Le tambour devrait garder la sacrée signification. Si derrière ça, il y aurait un certain profit, dans ce sens, ça serait une excuse.
Selon toujours le décret présidentiel, tout organisateur du spectacle avec le tambour burundais verse au trésor une redevance d'un montant de plus de 500 000 francs burundais par exhibition. Mais tous les groupes de tambourinaires qui évoluent à l'extérieur du pays doivent verser au trésor public une redevance équivalente à 2000 dollars américains par exhibition. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
À 82 ans, la peintre sud-africaine Esther Malangu a un style unique, des motifs très colorés qu'elle dessine avec une plume de poulet, des décorations que les femmes de son ethnie, Ndebele, peignent depuis plusieurs générations sur leur maison. Sa signature artistique a fait le tour du monde et Salwa Jafari lui a rendu visite dans son village natal de la province de Mpumalanga.
Quand j'étais petite, dans mon entourage, il y avait des gens qui écrivaient avec des plumes et quand ils prenaient leur pause, je m'emparais de leurs plumes et j'écrivais et dessinais avec en cachette. Quand ils revenaient, je m'enfuyais et je me cachais. Ils regardaient mon travail avec admiration, ils étaient éblouis.
Esther Malangu est tombée dans la marmite de l'art dès sa tendre enfance. Mais son aventure internationale ne prendra son élan qu'en 1989, quand elle a été invitée à participer à l'exposition Magicien de la Terre à Paris pour promouvoir la culture Ndebele. Ndebele, comme elle le prononce. C'est le mot qui revient le plus chez Maester, son peuple. Les Ndebele vivent au nord-sud et à l'est de Pretoria. Et c'est justement là que nous l'avons rencontré, à Mpumalanga, son village natal. C'est ici qu'elle crée, qu'elle vit depuis sa naissance.
Je suis très heureuse de faire ça. D'autant plus qu'il s'agit de ma culture, que j'aime tant.
Maester dirige une école qui enseigne aux jeunes filles non seulement la peinture, mais aussi la technique de composition sur les perles.
Ces enfants ont besoin d'apprendre leur culture, parce que c'est important. C'est important que la culture soit préservée de génération en génération.
Ces dessins ont dépassé le seul domaine de l'art pour s'inviter dans celui de la consommation de masse. Ils se déclinent à l'infini sur des bouteilles de vodka de luxe, des chaussures, des voitures, des objets de la vie quotidienne qui portent désormais sa griffe. En 1991, elle est la première femme et la première africaine à être mise en contribution pour la création d'un art car par la firme automobile allemande BMW. Son espace d'exposition témoigne de sa notoriété tardive mais fulgurante. Des regrets, aucun. Et quand on lui demande ce qui la rend heureuse, la réponse est instantanée, sans l'ombre d'un doute, ses peintures et ses perles. Rien n'assombrit sa palette, ses couleurs sont toujours vives et éclatantes, et elles le resteront.
C'est la fin de cette édition. À la mise en onde, Joselle Morissin. Présentation, Morgane Guerriec. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook. Rendez-vous également sur notre site internet voafrique.com pour l'actualité 24 sur 24. Au revoir.
Partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM. Kledou FM Bamako. Raga FM Goma. 96.5 Fraternité FM Parakou Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.